En Ile-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM et en DAB+.
Bonjour et bienvenue sur IDFM Radio, la plus belle des radios d'Île-de-France en Val d'Oise, à écouter en FM sur 98.00, web radio 98.fr, DAB+, et sur appli Android. Jacqueline Voraz avec Francky à la technique. Bonjour Francky. Quand sécurité civile, engagement et innovation transforment le quotidien. Bienvenue dans ce nouveau numéro de l'économie en direct dédié à celles et ceux qui chaque jour notre territoire plus sûr, plus accessible et plus humain. Ce matin, mardi 9 décembre 2025, j'ai le privilège d'accueillir le contrôleur général Laurent Chavillon, directeur départemental du SDIS du Val d'Oise, chef de corps des sapeurs-pompiers. Bonjour monsieur le contrôleur général.
Bonjour madame.
À vos côtés, Mélanie Saint-Martin, chef adjointe du service communication du SDIS. Alors, je précise que le SDIS, c'est le service départemental d'incendie de la protection des personnes et des biens du Val d'Oise. Bonjour Mélanie.
Bonjour Jacqueline.
Et un service dont le président est monsieur le maire de Soisy, Luc Straiano. Il me paraissait important de le préciser. Et également avec nous dans le studio, David Dejanovic, directeur des opérations France pour TK Home. Bonjour TK Home Solutions, pardon. Bonjour David.
Bonjour Jacqueline.
Et merci d'être avec nous ce matin. Merci à tous les trois d'être les invités en direct de l'économie en direct et bienvenue sur IDFM Radio.
IDFM Radio, le média valdoisien.
Alors, monsieur le contrôleur général Laurent Chavillon, est-ce que je peux vous appeler Laurent, tout simplement?
Oui, bien sûr.
Donc, directeur départemental du SDIS du Val d'Oise, chef de corps des sapeurs-pompiers. Peut-être quelques mots sur votre parcours avant d'entrer dans le vif du sujet.
Ah, mon parcours. Écoutez, mon parcours, c'est celui de beaucoup de sapeurs-pompiers professionnels qui ont découvert le milieu des sapeurs-pompiers par le volontariat.
D'accord.
Dans un village, dans mon village des Yvelines, à Montfort-l'Amaury, où mes parents ont emménagé dans les années 60. Et j'ai vu ces hommes, alors, je ne peux pas dire ces femmes à l'époque, parce que
oui. On va en
les unités
tout
n'étaient
à
composées quasiment que d'hommes. Mais en tout cas, voilà, j'ai vu ces hommes qui répondaient à l'appel de la sirène. Et puis ensuite, on voyait les engins partir. Donc, ça animait tout le village. Mon frère a rejoint les rangs et puis forcément a ramené cette activité au sein de la famille. Et puis voilà, c'est parti comme ça et par ce volontariat. Et puis ensuite, donc, puisque j'étais à l'époque au lycée, découvert que on pouvait en faire sa profession. C'est quelque chose qui jusque-là, moi, m'étais un peu complètement étranger. Et notamment, pouvait devenir officier de sapeur-pompier avec une filière universitaire bien particulière qui était les IUT Hygiène et Sécurité à Saint-Denis, en l'occurrence, pour ce qui me concerne.
Ah oui.
Et à partir de là, donc, pouvoir présenter le concours d'officier à l'époque. Et voilà, la boucle est partie.
J'étais lancé.
Et c'était parti, voilà, sous-lieutenant à Rambouillet, ensuite quelques années en province, en Haute-Marne, à Saint-Dizier. Dans le Doubs, à Besançon, pour revenir dans les Yvelines, et aujourd'hui donc dans le Val d'Oise en tant que directeur depuis 2022.
Très bien. Alors vous êtes à la fois contrôleur général, mais directeur départemental, est-ce que ce sont deux titres qui sont toujours forcément joints, ou bien peut y avoir un contrôleur général d'un côté et...
Non, le contrôleur général est mon grade.
Oui.
Directeur et ma fonction.
D'accord.
Voilà, donc ce sont deux choses différentes. Voilà, j'ai des collègues qui sont directeurs, colonels. Le grade minimum pour être directeur, c'est colonel.
D'accord.
Donc, il y a trois grades. Donc, on est sur un grade, en gros, qui est à l'équivalence des administrateurs territoriaux, des directeurs d'hôpitaux. Enfin, voilà. Donc, fait partie des grades de la catégorie A+, donc de la haute fonction publique.
Alors, une question cruciale tout de suite. Le Val d'Oise est souvent cité en exemple pour son modèle de sécurité civile. Vous disposez de, il y a 1800 sapeurs-pompiers volontaires qui interviennent en moins de 9 minutes en moyenne, un record national. Quels sont les piliers de cette réussite?
Effectivement, le SDIS du Val d'Oise a un peu comme tous les SDIS franciliens. C'est vraiment un modèle qui nous est propre sur ces IS de Grande Couronne. Paris Petite Couronne étant ce modèle de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, donc c'est un modèle qui dans la mission d'ailleurs fait exactement la même chose, mais dans une organisation qui utilise en tout cas des militaires. Nous en fait le modèle sur lequel nous reposons c'est un maillage territorial très fort, très rapproché. Donc en fait les casernes. Pour le Val d'Oise, c'est 39 casernes. 39 casernes au sein desquelles sont rassemblés les personnels qui, dans ce département, et pratiquement, c'est ce qui nous est commun sur les quatre départements d'Île-de-France, sont en permanence à la caserne. Enfin, quand ils sont de permanence, ils sont déjà physiquement à la caserne.
D'accord.
Et ils ne répondent pas, voilà, je vous évoquais tout à l'heure, moi, à mes débuts, nous répondions à la sirène. Donc là, c'est un temps qui est révolu aujourd'hui. En Ile-de-France, les pompiers sont à la garde, à la caserne, qu'ils soient professionnels ou volontaires. Et c'est ça, en fait, qui fait, en grande partie, la réussite des délais d'intervention. Le fait qu'il y ait plus ce temps de rassemblement, l'appel est reçu, l'alerte est déclenchée, les appareils sélectifs, les bips sonnent, les personnels prennent connaissance de la mission, montent dans les camions et partent. Voilà. Donc c'est vraiment ça, c'est la première particularité, et qui amène, globalement, puisque le territoire du Val-d'Oise, pour le coup, sur ces 40 casernes, enfin 39, est émaillé de manière extrêmement étroite, que ça soit sur la partie les plus urbaines, comme ici, donc sur Anguien, où il y a la caserne, mais aussi dans le Vexin. Le Vexin, qui est la ruralité francienne, mais bénéficie quand même encore là d'un maillage assez étroit. Et c'est ça, cette particularité en Val-d'Oise, c'est d'arriver à garantir ce délai pratiquement en tout point du territoire.
Mmh. Et une volonté qui a été voulue par le département précisément ou par le corps des sapeurs-pompiers?
C'est conjoint, parce qu'en fait derrière cette organisation il y a un financement, et s'il y a un financement, c'est qu'il y a une décision politique qui a été prise pour la supporter. Donc c'est techniquement effectivement un modèle sur lequel nous sapeurs-pompiers sommes attachés, parce qu'on voit bien la qualité du service, au moins déjà dans le fait d'arriver rapidement sur les lieux, et que ce soit sur un incendie ou sur un secours à personne, on sait que chaque minute est importante. Donc nous, sapeurs-pompiers, avons le sentiment de pouvoir mieux réaliser la mission, en tout cas d'être plus efficace par ces délais. Et puis d'ailleurs, on peut noter aussi que ça revêt un caractère politique au travers des financements qui nous sont accordés par les collectivités locales.
Alors j'ai noté qu'il y a environ 80 ou peut-être 80 000 interventions par an, toujours avec ces 9 minutes d'intervention. Donc expliquez-nous un petit peu la préparation. Enfin, vous venez de nous dire la vitesse avec laquelle vous pouvez être opérationnel, mais l'engagement des moyens, la gestion des crises, expliquez-nous un peu tout ça.
Alors au quotidien, en fait, nous ne gérons pas de crise. En fait, au quotidien, nous sommes plus près de 90 000 interventions là
ça a augmenté.
On a eu un bond de 13% d'augmentation d'activité en 2024, et 2025 va se terminer avec une augmentation contenue, mais avec une pente qui continue d'être ascendante à priori de plus 2,5% d'activité supplémentaire. Donc une activité soutenue. En fait, nous répondons quotidiennement sur ces 90 000 interventions. C'est pour une bonne partie, ce sont des situations d'urgence, en tout cas vécues par le sinistré ou les victimes d'accidents de la vie, le malaise ou l'accident de la voie publique, l'incendie. Et de temps en temps, effectivement, dans ces situations d'urgence, certaines prennent, les contours d'un début de crise ou une situation bien plus compliquée, bien plus complexe. C'était le cas très récemment, en tout cas sur le 20 octobre, lors de la tornade qui a frappé le Val d'Oise et plus particulièrement la commune d'Hermont, où on est passé effectivement d'une activité du quotidien qui globalement se répète tous les jours à quelque chose qui s'est revêtu d'un caractère tout à fait exceptionnel par l'ampleur, la force, l'intensité et les dégâts qui ont été causés, la soudaineté surtout, le fait de n'avoir pratiquement eu aucun élément de prévision. Donc et ce service, en fait, cette journée du 20 octobre, il illustre assez bien ce à quoi nous devons nous préparer, donc répondre à toutes ces situations d'urgence, de détresse, parfois d'assistance. On n'est pas toujours dans le secours d'urgence, on est parfois dans l'assistance. Et puis être prêt parce que j'étais en salle ce jour-là, c'est-à-dire quand je dis j'étais en salle, j'étais au CODIS, je faisais visiter le CODIS à un visiteur. Donc le CODIS, c'est la salle opérationnelle, là, où arrivent les appels d'urgence, le 18 ou le 112, puisque dans le département, les 112 sont reçus par les sapeurs-pompiers. Donc je faisais visiter la salle à votre visiteur. Je trouvais que la salle, au moment où nous sommes rentrés, était plutôt calme. Dans les 5 minutes qui ont précédé, les premiers appels sont tombés. Et ça a été, même en salle, ça a été d'une soudaineté extraordinaire. J'avais rarement vécu un moment pareil en salle. Donc voilà, c'est notre capacité, ce qu'on attend de nous, c'est de pouvoir passer de ce quotidien à ces situations d'urgence qui imposent une organisation tout à fait particulière qui ne peut plus être celle du quotidien, forcément.
Oui, c'est ça. Alors vous avez vous êtes en coordination avec, vous nous l'avez dit, enfin en tout cas vous avez parlé du département, mais vous êtes en coordination avec des partenaires institutionnels comme évidemment la préfecture, oui, les élus locaux, les services publics, le monde de la santé, les forces de sécurité. C'est dans des cas comme celui que vous venez de citer où se mettent en place ces coordinations.
Absolument. Même un moment comme le 20 octobre. Il y a quand même quelque chose, c'est assez classique, on prévient effectivement les services partenaires, police, gendarmerie, en l'occurrence c'était secteur police, enfin il y avait un peu de secteur gendarmerie aussi, le SAMU, puisque sur cet événement nous avions notion potentiellement de plusieurs chantiers avec des victimes, au final il n'y aura qu'un seul chantier avec des victimes, c'est le chantier de l'IME avec les grues. Donc là il y a un échange d'informations opérationnelles qui se fait pratiquement de manière instantanée. Et puis ensuite, là, on va commencer à aller vers un autre processus d'organisation, en s'orientant vers, les communes, dans leur capacité à se mettre aussi en organisation propre à répondre à ces situations d'urgence, et derrière vers l'autorité préfectorale, qui, elle, sur un événement comme celui-ci, a la charge de la coordination des secours sur le département. Oui. Donc effectivement, ça c'est une dimension qui est très particulière. Au quotidien, nous ne travaillons pas tout à fait comme ça. Mais là, très rapidement, premier temps, c'est de rendre compte à l'autorité, de lui signaler l'événement, recouper les informations entre ce que l'autorité peut avoir par d'autres canaux, ce que nous avons. Donc il y a forcément un moment où les choses ne semblent pas tout à fait ajustées parce que les choses vont très vite. En plus, on est sur un phénomène, le 20 octobre, qui est mobile, qui se déplace. Oui, oui. Donc 5 minutes après, on ne parle plus de fait de la même situation. Donc ça peut créer un petit un temps de déstabilisation. Oui. Et puis ensuite, voilà, on est assez habitué à ça. On sait que nous laissons passer et à un moment, on se dit OK. Et un quart d'heure après, on refait un point et là, on commence à stabiliser la situation. Mmh. Et puis on commence à lancer nos process. Parce qu'en fait, on n'invente pas l'organisation. On s'adapte, mais on ne l'invente pas. Donc en fait, on va déployer sur le terrain un process qui a déjà été préparé. Par contre, en s'adaptant à la situation.
Oui, j'ai pu participer à la réunion qui a eu lieu chez vous là il y a en septembre, oui, je crois. Oui. J'ai pu participer à quelques exercices où justement un de vos hommes expliquait que tous les process doivent être répétés encore et encore pour pallier ces moments de stress
Ce qu'on attend du sapeur-pompier, c'est sa capacité en fait à s'adapter à une situation a priori particulière, mais en déployant en fait les gestes qu'on lui a appris à tous les niveaux de la formation, formation d'hommes du rang ou la formation d'officier. Donc chez nous on appelle ça les actions réflexes. Donc on apprend en fait à appréhender ces mécanismes. Et ensuite, savoir les adapter par rapport à une situation qui fait que le terrain commande. Savoir s'adapter, c'est le plus important.
C'est déjà le propre de l'homme en général de s'adapter. Donc là, peut-être encore
plus. Sauf que là, il faut s'adapter très vite.
Très vite, oui.
Très, très vite.
Alors, Laurent, vous êtes avec nous ce matin aussi pour parler de volontariat, on va y venir. Juste, je reste un petit peu sur cette thématique de la conduite stratégique et opérationnelle. Vous avez mentionné la complexification des risques climatiques, cyber, etc. Quel est le risque émergent qui vous préoccupe le plus aujourd'hui et demain ?
Alors, on a quand même les risques liés, à l'évolution du climat.
Oui.
Clairement, surtout dans un secteur comme le nôtre, avec les impacts en fait que ça peut avoir sur les zones. Et je reviens à cette situation du 20 octobre sur des zones très urbanisées, avec des enjeux humains, sociétaux, économiques, qui sont nombreux. Donc une capacité en tout cas de dérégler notre capacité à vivre, à fonctionner ensemble, qui est quand même très très fort. Mais le Val d'Oise a été touché par le passé aussi d'événements climatiques, mais dans des secteurs plus ruraux, qui n'ont pas eu le même impact. Et pourtant, c'est pas la première fois. Donc bien sûr, ça c'est quelque chose que nous avons tous à l'esprit, sur lequel il faut qu'on travaille nous à nous y préparer, et puis aussi tous les, que ce soit les gestionnaires de ces réseaux, du secteur économique, les maires, les communes aussi, à commencer à appréhender ce qu'a vécu le maire d'Hermont, mais aussi le maire de Franconville, le maire de Cormeilles-en-Parisis, etc. Comment eux aussi les élus doivent être aussi prêts à pouvoir répondre à ce type d'enjeu. Et puis ensuite, je dirais, ce qui nous préoccupe aujourd'hui, pour le dire assez simplement, c'est les risques, comment dire ça, alors technologiques, ça a toujours existé, et dans ce département, la vie économique du département, par ses industries, par son secteur logistique qui pousse quand même très fort dans ce département, les transports, etc. Donc forcément, toute activité humaine génère des risques. Donc ça, nous y sommes préparés, on y travaille régulièrement. Puis aujourd'hui, on va sur quelque chose qui est quand même lié, au dérèglement humain.
Oui.
C'est plus le dérèglement climatique, c'est le dérèglement humain, avec des risques, des menaces.
Oui, des agressions.
Au quotidien, pour ce qui nous concerne, c'est l'agression envers les secours, les incivilités, sur des équipages isolés. Et puis, de manière plus globale et plus aveugle, les menaces terroristes, etc. Donc on est aujourd'hui sur cette palette, voire même les risques menaces cyber, puisqu'en fait nous sommes un service qui nous appuyons sur une structure numérique importante, que ce soit pour la gestion administrative du service, mais aussi pour la gestion de nos systèmes opérationnels. Voilà, donc nous devons être en capacité de répondre à tous ces enjeux.
Oui, des agressions qui sont choquantes.
Toujours, oui.
Aussi bien pour la police, la gendarmerie, mais pour vous, alors que vous êtes là pour protéger vraiment nous protéger, c'est toujours choquant de voir que parfois vous pouvez être agressé.
Oui, on déplore sur ce département, et on les comptabilise par les dépôts de plaintes, mais il n'y a pas systématiquement un dépôt de plainte à chaque agression, notamment verbale.
C'est même diminué, donc.
Mais on déporte sur ce département environ 80 dépôts de plaintes tous les ans, pour moitié à peu près des agressions verbales, donc qui sont des injures, avec notamment très menaçantes, c'est ce qui amène les agents à déposer plainte, et puis les agressions physiques. Qui elle pratiquement amène systématiquement le dépôt de plainte.
Un fait nouveau quand même.
Alors c'est un phénomène nouveau. Ça fait quelques années qu'il existe, mais on n'y prenait pas, n'y portait peut-être. Il n'avait pas cette intensité. Et il était peut-être plus lié à des secteurs typiques. Aujourd'hui, en fait, là où la nouveauté, c'est que aucun espace du territoire est protégé de ce phénomène, dans le Val d'Oise comme ailleurs. De ce point de vue-là, les pompiers du Val d'Oise ne sont pas plus agressés que d'autres dans d'autres secteurs. On a des agressions aussi dans le Vexin ou dans le nord-est du département. C'est ça en fait qui est nouveau,
c'est cette multiplicité
qui fait que auparavant peut-être on pensait que c'était certaines zones urbaines un peu compliquées. En fait non, c'est pas forcément le sapeur-pompier est le plus agressé en fait. Voilà.
Merci beaucoup, Laurent Chavillon. Je m'adresse peut-être un petit peu à Mélanie. Donc Mélanie, vous êtes dans la communication au SDIS, mais êtes-vous vous-même pompier ?
Alors non. Je ne suis pas pompier. Pardon. Moi, ça fait un an que j'ai rejoint le SDIS.
Oui.
Avant, j'ai été dans le privé. Non, peut-être une vocation à en devenir.
Ah, oui.
Qui sait? Mais voilà, j'ai rejoint les effectifs du service communication, comme vous l'avez dit. Et voilà.
Ben, on, tout à l'heure, on détaillera un peu plus votre mission. Et puis, je m'adresse à David. Donc, David, avec nous ce matin, parce que au départ, imaginez-vous que j'étais persuadée qu'il était volontaire, pompier volontaire. Mais bon, voilà, David est déjà venu.
C'est un souvenir d'une discussion qu'on a eue.
Hein. Oui, c'est ça.
Parce qu'effectivement, à l'époque, j'avais fait déposer un dossier pour être pilote de chasse. Il y a un bureau, je crois, qui est à côté de Necker et Enfants Malades, de mémoire. Et là-bas, j'avais déposé, où j'étais accepté. Malheureusement, je ne l'ai pas fait pour des raisons côté famille, ma mère qui ne voulait pas trop que je m'engage dans l'armée.
Ah, oui.
Et après, effectivement, je voulais être pompier. Et pareil, la même chose. Donc, du coup, j'ai poursuivi pour être dans la branche où je suis aujourd'hui.
Mais vous verrez, David, qu'il n'est pas trop tard, si vous voulez.
Mais je pense
être
qu'il n'est jamais trop tard, en réalité. Hein. Moi, ça a toujours été quelque chose qui me passionne.
On va avoir des détails tout à l'heure. Alors, restez avec nous, on revient juste après cette pause avec Christophe Maé et son titre « Belle demoiselle ».
Du fond de ma rue, une silhouette comme un bruit aigu se rapproche à hauteur de mes yeux nus. La silhouette, c'est une fille, jour de fête nationale, ronflante comme une escadrille qui domine mon moral. Je la regarde me sourire, je baisse la garde et les yeux pour me dire: belle demoiselle qui se presse dans l'allée, sa démarche lui donne des ailes, mais j'ose pas m'emballer. Et si jamais je m'approche d'elle, aucun doute, elle s'envole comme une hirondelle. La silhouette comme un nuage s'éloigne sans un bruit, alors c'est grave.
Non.
Ça se bouscule dans ma tête, topé à l'effet de plaire. C'est pas vraiment la fête, pourtant j'ai l'air de lui plaire. Qu'ai-je fait, oh bon Dieu, pour être fidèle à cet aveu? La belle demoiselle presse dans l'allée, sa démarche lui donne des ailes, mais j'ose pas m'emballer. Et si jamais je m'approche d'elle, aucun doute, elle s'envole comme une hirondelle. Inaccessible comme une hirondelle. Ma tête dopée à l'effet de plaire, c'est quand même la fête, le fantasme qui peut distraire. Je ne suis pas parfait, je ne suis pas parfait, merci mon Dieu, mais je tire un trait sur cet aveu. La belle demoiselle disparaît dans l'allée, sa démarche lui donne des ailes, mais j'ose pas m'emballer. Et si jamais je m'approche d'elle, aucun doute, elle s'envole.
Elle s'envole.
Belle demoiselle,
oh non,
qui se presse dans l'allée, sa démarche lui donne des ailes, mais j'ose pas m'emballer.
J'ose pas m'emballer.
Jamais je m'approche d'elle, aucun doute, elle s'envole.
Elle s'envole.
Mais j'ose pas m'emballer.
Jamais
je m'approche d'elle.
Donc je m'approche d'elle.
S'envole.
Non, 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 non.
Comme une hirondelle.
Non, moi non.
En Ile-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98FM et en DAB+.
Nous voilà de retour et je suis ravie de vous retrouver pour la suite de cette émission en compagnie de Laurent Chavillon, contrôleur général, directeur départemental du SDIS du Val-d'Oise, chef de corps des sapeurs-pompiers. Mélanie Martin, chef adjointe du service communication du SDIS du Val-d'Oise. Et David Dejanovic, directeur des opérations France TK Home Solutions. Alors, monsieur le contrôleur général, vous êtes avec nous aujourd'hui pour nous parler de volontariat. Parce que moi, j'ai découvert en effet que lors de cette réunion que c'est au cœur du modèle français, hein, de la sécurité civile, des citoyens qui s'engagent pour protéger la population et renforcer la solidarité locale. Mais ce volontariat a besoin d'être tout le temps réactivé, si j'ai bien compris.
Absolument, le modèle de sécurité civile qui, on a souvent le dit, est unique, repose exclusivement sur les sapeurs-pompiers volontaires, donc le volontariat. C'est l'histoire, ça nous renvoie assez loin.
À la création.
Depuis tout temps où l'homme a d'abord appris à maîtriser le feu, à faire naître le feu. Ensuite, il a fallu qu'il apprenne aussi à le maîtriser, voire parfois lutter contre
Absolument,
le feu.
Absolument,
oui. Lorsque celui-ci lui échappait. Et donc, progressivement, j'allais rapidement remonter l'histoire, s'est organisé, et on a vu apparaître la création des corps de sapeurs-pompiers, souvent communaux.
Oui.
Notre histoire, elle est communale. L'organisation se faisait à l'échelle de la commune. Et à l'époque, donc, c'était, alors, en tout cas, des... Les pas de volontariat, en tout cas, c'était des bénévoles, des bonnes volontés, des gens qui... Et puis les choses se sont structurées, on a équipé, on a formé, etc. On a donné un statut et ainsi est né vraiment le volontariat reconnu par les différents textes. Donc c'est notre histoire. Et puis, en avançant encore un peu, l'évolution des risques, l'évolution du besoin de sécurité, la sollicitation aussi a fait que certains de ces corps, jusque-là, excusez-moi, volontaires, se sont professionnalisés. Et voilà quoi. Et on arrive aujourd'hui à avoir ce régime mixte, on va dire, des volontaires d'un côté, qui en France constituent l'essentiel de l'ossature, ils sont 200 000. Et à côté de ça, donc des sapeurs-pompiers professionnels, donc fonctionnaires territoriaux, ce qui est mon cas, ou militaires, ce qui est le cas de la brigade des militaires des pompiers de Paris ou de Marseille, qui sont eux du bataillon des marins-pompiers de Marseille. Donc environ 13 000 militaires et 43 000 professionnels. Voilà. Donc en fait, 250 000 pompiers en France, 200 000 sapeurs-pompiers volontaires. Donc voilà, ça illustre bien. Et dans certains départements, puisque là c'est très lié à la densité démographique, c'est quasiment exclusivement des sapeurs-pompiers volontaires et sur certaines communes les plus importantes, quelques pompiers professionnels. Voilà. Dans le Val-d'Oise, effectivement, on est sur un modèle un peu différent. Donc, nous avons à peu près un peu moins d'un millier de sapeurs-pompiers professionnels, aux côtés desquels sont 1800 sapeurs-pompiers volontaires, vous l'avez dit tout à l'heure, 250 personnels administratifs, techniques et spécialisés, comme Mélanie, pour faire fonctionner le service. Mais c'est vraiment, en France, ce serait simple d'imaginer un monde sans sapeurs-pompiers volontaires. En fait, le système s'arrête.
Vous n'auriez pas les résultats s'arrête. Que vous affichez
non,
aujourd'hui.
Non, ouais. non, la population n'aurait pas la même qualité de secours dans le Val d'Oise, mais comme dans d'autres, partout en fait. Les sapeurs-pompiers professionnels pourraient effectivement répondre à un certain nombre de sollicitations. Il faudrait la réduire, la contracter fortement. Et de toute manière, en termes de maillage, nous n'y serions plus, quoi.
Oui, voilà. Bien sûr. Voilà. Ceci parce que, donc, il y a toutes les opérations quotidiennes dont vous nous avez parlé, mais où il n'y a pas besoin d'avoir donc des professionnels à demeure, c'est un petit peu pour ça.
En tout cas dans le Val-d'Oise, mais en général en Île-de-France, d'un point de vue de la compétence, notre objectif en tout cas, c'est de faire en sorte que les pompiers volontaires à grade égal tiennent les mêmes activités, exercent les mêmes fonctions que les sapeurs-pompiers professionnels. Donc, le fait qu'il y ait des centres de secours avec, parce qu'il y en a dans le Val-d'Oise, sur les 39 centres de secours, il y en a 8 où il n'y a que des sapeurs-pompiers volontaires, donc du dernier sapeur rentré jusqu'au chef, est plus lié à la sollicitation, c'est-à-dire en fait le nombre d'interventions journalières, qui, alors même que les personnels sont à la garde, ne justifie pas que l'on y déploie des personnels professionnels. Mmh. Voilà. Et dans les plus grosses unités, hein, qui peuvent être les centres de secours comme Vielle-Belle ou Argenteuil, là, la sollicitation est telle que nous ne pourrions plus avoir les effectifs de toute manière uniquement composés de pompiers volontaires. Oui. Ça serait c'est impossible à rassembler. Donc là, l'essentiel de la garde est composé de sapeurs-pompiers professionnels, mais il y a toujours dans toutes les casernes, dans les 39 casernes, il y a besoin et l'intégration de pompiers volontaires au quotidien, dans toutes les gardes, tous les jours, dans toutes les casernes, il y a des sapeurs-pompiers volontaires, parfois seuls, c'est le cas par exemple de Bray-Lu, de Maincourt, de Vigny, et parfois aux côtés des professionnels comme à Vielle-Belle.
C'est ça, il y a un calendrier d'astreinte pour que ces personnes soient présentes.
Alors on fait appel à la disponibilité, alors ça c'est là où après on commence à rentrer vraiment sur un statut qui est très particulier, ça reste volontaire, donc en fait c'est un engagement citoyen, donc où un citoyen accepte et souhaite donner du temps, donc
David
donc David on peut commencer à y réfléchir, accepte de donner une partie de son temps donc à un service public, en l'occurrence le nôtre, donc qui est chargé de missions de secours. Voilà. Donc il va falloir arriver ensuite là des enjeux et d'arriver à concilier dans sa vie, le côté professionnel, le côté familial, voire les études pour certains, et puis répondre aux attentes du service en termes de formation notamment, parce que c'est un vrai sujet. Et puis ensuite, bien sûr, à la permanence opérationnelle, mais qui est le permanence étant le rendez-vous pris avec la caserne pour venir monter des gardes et répondre à la sollicitation. Donc c'est un, mais tout ça se fait sur le, pour ce qui est du volontariat, se fait sur l'engagement librement consenti.
Oui.
Voilà, c'est quelque chose en tout cas sur dans le modèle de sécurité civile français qui reste l'axe majeur.
Oui, et le bénévolat, essentiellement.
Alors, on ne parle pas de bénévolat parce que nos sapeurs-pompiers volontaires bénéficient d'une indemnité.
Ah oui.
Donc, en fait, ils sont défrayés.
D'accord.
Par une indemnité horaire de sapeurs-pompiers volontaires.
D'accord.
Ce qui fait que leur engagement citoyen n'est plus tout à fait bénévole.
J'ignorais, mais en tout cas citoyens qui s'engagent pour protéger la population et puis renforcer la solidarité locale.
Il est d'une évidence que l'exemple est très simple. Dans le Val-d'Oise, nous avons environ 310 sapeurs-pompiers de garde tous les jours, répartis sur les 39 casernes. La moitié sont des sapeurs-pompiers volontaires. En moyenne sur l'année. La moitié de la garde est composée de sapeurs-pompiers volontaires.
Vous le dites, c'est une part essentielle de l'effectif. Ouais.
C'est la moitié. Et en termes d'activité, c'est pareil. Les nombres d'heures passées en intervention, ils en réalisent à peu près la moitié aussi.
Voilà. Alors, ces citoyens sont formés aux mêmes techniques que les professionnels, j'imagine ?
Absolument, puisque notre objectif, et ça c'est vraiment quelque chose qui nous est particulier, c'est pour ça qu'on parle d'un modèle francilien, un modèle valdoisien, c'est de faire en sorte que le pompier volontaire, lorsqu'il nous rejoint, fasse la même chose que le pompier professionnel. Alors bien sûr, l'organisation de sa formation ne se fait pas du tout de la même façon. Le professionnel, on l'envoie en stage, c'est assez simple, c'est des temps de sa vie annuel de travail qui sont consacrés à la formation. C'est assez simple à faire. Pour le pompier volontaire, il va falloir arriver à articuler cette formation parmi toutes ses préoccupations. C'est ce qui fait qu'on avance par module et que l'on peut échelonner entre le premier jour où on arrive et 3 ans. Donc on peut se donner 3 ans maximum pour former complètement un sapeur-pompier volontaire à réaliser chez nous ce qu'on appelle toutes les missions. Donc ça veut dire les missions de secours à personne, les missions de protection des biens, et puis les missions qui sont celles pour lesquelles généralement on nous rejoint, qui sont les incendies.
Voilà. Oui, oui.
Donc c'est un peu plus de 300 heures cumulées de formation avec des exigences de qualification, donc c'est en plus faut réussir. Il faut réussir, mais c'est indispensable pour que le pompier volontaire soit à l'aise avec la mission de secours qu'on va lui demander de réaliser. Dans cette promptitude que j'évoquais à l'instant, à savoir donc maîtriser un geste et savoir le mettre en œuvre très rapidement.
Le reproduire.
Donc voilà, donc ça nécessite beaucoup, beaucoup de formation, beaucoup d'exercices, beaucoup de reproduction du geste. Et beaucoup de présence aussi pour, bénéficier de l'expérience de ses collègues qui ont déjà vécu un certain nombre de choses, etc., etc. Donc oui, c'est quelque chose qui est la formation chez nous qui est
primordial,
très primordial et très prenant.
Mm-hmm. Alors. Pour avoir des volontaires, il faut bien sûr faire appel, avoir l'appui indispensable des employeurs. C'est un peu le sens aussi de votre message aujourd'hui, monsieur.
Absolument, cette disponibilité pour la formation, avec les temps que ça requiert. Par exemple, pour être chef d'agrès d'un engin d'incendie, c'est pratiquement un mois de formation, 3 semaines. Bon. Peu de personnels volontaires peuvent prendre sur leur congé, puisque on arrive en plus à généralement c'est des agents qui sont sortis du milieu scolaire, qui sont plutôt dans la, quand on arrive après pouvoir prétendre à ces grades-là sont déjà dans le tissu professionnel, dans le privé, dans le public, vie de famille, etc. Mmh. Alors voilà, et c'est là où effectivement le rôle de l'employeur est primordial et au plan national, hein, c'est pas qu'au plan, plan départemental, il y a un certain nombre de mécanismes, en tout cas une politique très forte qui est menée vers les employeurs, publics ou privés, de sapeurs-pompiers volontaires, pour faire connaître la plus-value qu'il peut y avoir pour une collectivité, un établissement, d'avoir des pompiers volontaires au sein de son entreprise. Et aller travailler la fibre RSE des entreprises pour les amener donc à accorder du temps à ces citoyens, à ces salariés engagés, citoyens engagés, pas tout à fait comme les autres. Voilà. Et on nous en arrivons donc à effectivement cette soirée que vous évoquiez il y a quelques instants, à un gros travail fait vers les employeurs, au travers notamment de conventions, entre conventions au niveau national, donc des conventions cadres, mais ensuite qui peuvent être déclinées au plan local ou tout simplement aller voir la PME du secteur qui a un ou deux, parfois un pompier volontaire dans ses rangs et d'aller négocier avec le chef d'établissement, le patron, le fait de pouvoir accorder une semaine, 10 jours.
Oui, c'est ça, des conventions donc qui facilitent les absences pour intervention.
C'est ça, voilà,
formation.
Qui font que le pompier volontaire en fait n'est pas ne subit pas, voilà, sur son activité professionnelle ses absences pour le service.
Et vous, Mélanie, donc vous intervenez dans ce processus de recrutement entre guillemets?
Alors non, pas vraiment.
C'est pas votre
pas sur
mission.
Cette sphère-là, oui, oui. Voilà, absolument. Nous, on intervient surtout, donc le service com, en général, intervient plus sur donc la sphère interne et externe,
oui.
Sur une communication très 360,
oui.
Qui va de l'affiche du centre de secours pour un cross, un trail ou que sais-je, à la gestion de crise sur place, sur intervention pour la gestion des médias, par exemple.
Voilà. Oui, tel qu'il y a eu à Hermont, vous avez bien sûr.
Exactement. Donc il y a toute une coordination avec la préfecture ou alors une communication au sein du SDIS quand nous portons la communication dans ces cas-là.
Mmh, très bien. Merci Mélanie. Alors je propose qu'on fasse une nouvelle pause. On vous laisse profiter de quelques instants avec Zao de Zagazan, la symphonie des éclairs. À tout de suite.
Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. Dès sa plus tendre enfance, elle ne savait pas parler autrement qu'en criant tout bas, pas faute d'essayer de les retenir, ses cris et ses larmes qui les faisaient tant. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. En grandissant, rien ne s'est calmé. Petite tempête s'est trouvée. Des raisons de pleuvoir autant. Qui pourrait l'aimer, franchement? Personne n'aimerait se retrouver au cœur d'une tempête avouée. Il y a des raisons de pleurer. Elle a ses raisons, mais il fait toujours beau au-dessus des nuages. Mais moi, si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterai sous la pluie la symphonie des éclairs. Que des mélodies pouvaient s'échapper du vent et se retrouver dans le cœur des gens. Celle-ci s'est dit, nulle raison d'envier le soleil, je ferai danser les gens. Rythme de mes pleurs, la tourmente de mes chants viendra réchauffer les cœurs, réchauffer. Beau au-dessus des nuages, mais moi je suis de ces oiseaux qui nous font danser sous l'orage. Je traverserai tous les nuages pour trouver la lumière en chantant sous la pluie la symphonie des éclairs.
Diversité, écoute, partage, IDFM Radio, votre média de proximité.
C'est toujours l'économie en direct sur IDFM Radio. Ce matin, une émission spéciale SDIS du Val d'Oise avec le contrôleur général Laurent Chavillon, directeur départemental du SDIS du Val d'Oise, chef de corps des sapeurs-pompiers, Mélanie Saint-Martin, chef adjointe du service communication du SDIS du Val d'Oise, et David Dejanovic, directeur des opérations France TK Home Solutions. Laurent Chavignon, donc la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est d'avoir ce que vous appelez un partenariat gagnant-gagnant.
Oui, avec les employeurs et en fait on va activer avec eux une quelque chose, comment dire, qui est assez présent chez les sapeurs-pompiers, c'est la reconnaissance.
Oui.
Voilà, donc et d'ailleurs qui est vraiment un des piliers du fonctionnement pour faire fonctionner le volontariat, mais je dirais, le milieu associatif d'une manière générale, même pas que les pompiers volontaires, on s'aperçoit que c'est vrai, je dirais, dans plein d'autres endroits, même nos entreprises, la reconnaissance du travail, la reconnaissance de l'engagement. Eh bien, pour les employeurs, un certain nombre d'entre eux se sont engagés aux côtés du SDIS, ont signé des conventions. On a aujourd'hui une trentaine de conventions avec des groupes nationaux, mais aussi des groupes locaux, des collectivités locales, qui ont donc sont engagés dans cette démarche de donner de la disponibilité à leurs agents, parfois quelques jours uniquement pour la formation, parfois plus de jours, et puis même pour leur permettre de prendre des gardes, voire partir en intervention à l'extérieur du département sur des renforts feux de forêt. À l'étranger, c'est un peu plus rare parce que généralement, oui, ce sont des équipes spécialisées qui partent.
Oui, comme quand il y a des feux importants Grèce, où on entend dire que...
Les feux de forêt à l'étranger, c'est souvent les unités de sécurité civile qui y vont voir les départements, les SDIS de l'arc méditerranéen.
Ah oui.
Parce qu'ils ont quand même une expérience dans les mains un peu, et puis ils sont plus près, tout bêtement. Par contre, sur des opérations extérieures, la dernière en date, vraiment de secours, c'est le séisme de Turquie, où là, l'Île-de-France a engagé ses spécialistes en recherche de sauvetage et déblaiement. Nous sommes allés aussi en Nouvelle-Calédonie, en Mayotte, à La Réunion, suite aux différents ouragans.
Oui,
et puis cet été, et là, il y avait des pompiers volontaires. Nous étions engagés sur les, en tout cas, en renfort feux de forêt sur l'arc méditerranéen. et nos secours ont participé à ce méga feu dans l'Aude,
oui, oui.
Où ils ont même pris part à l'attaque dans les premières heures. C'était voilà.
Oui, qui a duré plusieurs jours.
On a des collègues qui sont revenus avec des, qui ont vécu une situation d'intense, une haute intensité opérationnelle. Hein. Mm-hmm. Et là, il y avait des pompiers volontaires. Voilà. Mais sinon, pour revenir au sujet, oui, donc la reconnaissance de l'engagement de sapeurs-pompiers, des employeurs de pompiers volontaires, donc. Alors déjà, il y a un certain nombre de mécanismes dont ils peuvent faire appel, sur l'incitation, peut aller sur des réductions de primes d'assurance.
Oui, voilà, il y a des avantages.
Voilà, il y a quelques avantages. Ils peuvent bénéficier de fameuses indemnités horaires dont je parlais tout à l'heure à la place de l'agent. Et donc nous, en retour, le niveau national, il a été institué une reconnaissance sous forme d'un label.
Oui.
Partenaire employeur de sapeurs-pompiers volontaires. Et il y a 15 jours, le 12 novembre, en fait, le préfet du Val d'Oise, Monsieur Philippe Court, donc avec le président du conseil d'administration, ont remis à 13 employeurs, publics et privés, le label, donc employeur partenaire du SDIS du Val d'Oise. Voilà, à 13 employeurs. Le premier étant la ville de Taverny, qui avait reçu son label en 2023.
Vous avez vous avez comment une personne très emblématique à Taverny.
La commune de Taverny a été la première collectivité et donc employeur, parce que tout confondu, à recevoir le label partenaire employeur des sapeurs-pompiers du Val d'Oise. Et donc le 12 novembre, 13 autres ont suivi. Et avec à nouveau, nous avions rassemblé aussi bien d'autres employeurs, expliquer aussi, l'idée était d'expliquer aux employeurs ce qu'était le volontariat, leur faire toucher du doigt ce que c'est être sapeur-pompier volontaire avec quelques exercices sur le plateau comme vous les avez vous avez découvert vous-même il y a quelques semaines, Jacqueline.
Il y a même je peux vous dire qu'il y a un exercice que j'ai pas pu faire avec
l'appareil respiratoire isolant
virtuel, là, quand il fallait marcher sur une passerelle dans le vide.
C'est une simulation
sur cette passerelle.
Et donc voilà 13 diplômes et ensuite donc on va continuer, et l'idée c'est effectivement de mettre en avant ces organismes qui s'engagent pour que ce service public de secours bien particulier puisse fonctionner et répondre aussi à leurs besoins. Parce qu'en fait, en faisant ça, en fait, on permet d'entretenir, permettre à notre service départemental de fonctionner, de continuer à pouvoir protéger et distribuer des secours. On part du principe qu'il ne peut pas y avoir de développement économique et social d'un territoire si à côté il n'y a pas la sécurité, dans son accession la plus large, la sécurité civile, pardon, en faisant partie. Donc en fait c'est là où est le volet gagnant-gagnant. Et puis aussi d'avoir des sentinelles, si je peux les appeler comme ça, des sentinelles avancées de sécurité au sein des entreprises, parce que un pompier volontaire qui est formé, c'est saura a priori mieux réagir face à une situation d'urgence au sein d'une société qu'un salarié qui n'en a pas forcément tous les moyens, quoi. L'idée c'est de développer un partenariat gagnant-gagnant. J'irais même rajouter, je crois que le président a dit une troisième fois gagnant d'ailleurs.
Donc là, vous pouvez profiter du micro. Je vous laisse préciser si vous voulez que des personnes fassent appel à vous. Que voulez-vous leur dire ?
Que les portes des centres de secours leur sont ouvertes, pour venir voir. Alors, elles sont ouvertes. Il faut qu'on réorganise des journées portes ouvertes, justement. Oui. Nous les avions mis un peu de côté en raison des dispositions Vigipirate, mais on va adapter notre dispositif pour pouvoir réouvrir, là, vraiment au sens propre, et non pas au sens figuré, les portes de nos casernes, de manière à pouvoir venir, une population puisse venir à la rencontre des sapeurs-pompiers, et les sapeurs-pompiers rencontrer la population. C'est extrêmement important, faire passer des messages et découvrir ce que nous sommes. Dire aussi aux auditeurs, faut pas se faire une idée que le sapeur-pompier c'est un surhomme ou une surfemme, un athlète de haut niveau qui vit au quotidien des situations périlleuses, etc., etc. Donc j'aurais rassuré la maman de David, parce que
c'est monsieur tout le monde, en fait.
Oui, certaines de nos activités sont dangereuses. C'est
oui,
vrai.
Oui.
Et tous les ans, nous en payons un tribut. Mais tout est fait, en fait, en amont pour oui, maîtriser la formation, les équipements, oui, les procédures, etc., etc. Ce qui fait qu'au final, nous arrivons à réaliser nos missions dans des conditions acceptables, dures, effectivement, éprouvantes parfois, sur le coup, et de manière chronique. Et on accompagne d'ailleurs nos agents, de ce point de vue-là, de gros travail de après l'intervention. Mm-hmm. Il y a un accompagnement qui se fait.
Ah oui,
oui. Il peut aller assez loin si nécessaire. Donc voilà, mais tout le monde peut. En fait, l'idée, c'est de dire que tout le monde peut être sapeur-pompier
oui,
volontaire. On va demander effectivement quelques aptitudes, mais on peut s'y préparer. Et aujourd'hui, en fait, nous ouvrons aussi nos centres de secours à. On n'est pas obligé de devoir faire toutes les missions. On a introduit un système à deux temps.
Une échelle.
Un premier
petit
temps,
peu,
ouais, au moins de pouvoir faire les opérations de secours aux personnes, qui nécessitent pas tout à fait les mêmes aptitudes que d'aller à l'incendie, mais qui est quand même un secours à personne en situation particulière. Hein, c'est quelque chose, c'est dans des situations accidentelles, avec quand même de l'engagement physique, etc. Mais c'est pas d'aller au feu. Et puis, certains aujourd'hui, sapeurs-pompiers volontaires ne font que ça. Et puis après, il y a effectivement cet engagement toute mission qui va demander un peu plus d'exigence physique, de maîtrise de gestes, donc de formation. Et forcément, donc, qui amène sur d'autres types d'interventions aussi, quoi. Voilà. Donc, en fait, on a aussi, on s'est adapté, on a ouvert, donc, on s'est largement féminisé. Enfin, en tout cas, on a ouvert, fait en sorte que les personnes, les candidates puissent nous rejoindre. Aujourd'hui, les femmes, c'est, au sein de nos rangs, c'est en uniforme. Hormis le service de santé de secours médical qui, par nature,
est
un peu à part et très majoritairement féminin. En tout cas, pour les unités opérationnelles, c'est de l'ordre de 20%. Un peu plus pour les pompiers volontaires, beaucoup moins chez les professionnels. Voilà. Et on est en moyenne, et c'est à peu près le taux de la féminisation en France, c'est 20%. Donc un travail qui a été fait aussi au niveau de nos casernements. Je vous ai parlé de mes débuts. Rien n'était fait. Mes débuts, c'était dans les années 80 pour accueillir des femmes. Et aujourd'hui, donc, nous sommes en capacité d'accueillir des femmes. Nous sommes en capacité d'accueillir aussi des jeunes sapeurs-pompiers. Des mineurs, donc, jeunes sapeurs-pompiers. Donc, l'école, en fait, les cadets, etc. Voilà.
Une sorte d'initiation.
Voilà. Donc, voilà. Et on veut vraiment évoluer là-dessus, en fait, sur ces sujets de rendre en fait la candidature concevable,
oui,
d'accueillir, peut-être de commencer à, alors c'est ce qu'il faut qu'on construise des petits temps de découverte, une journée avec au sein d'une caserne pour voir quand même si ça convient, parce qu'il y a les interventions, il y a la vie de caserne, la vie de groupe. Bon, c'est quand même quelque chose auquel
il faut être
c'est
adapté,
pompier, c'est pas simplement partir en intervention, hein, c'est passer beaucoup de temps avec ses collègues.
Quelque part un petit peu comme tous les corps, c'est recréer une famille un petit peu.
C'est fondamental chez nous. Il y a trois choses pour que ça fonctionne: le sens de la mission. Oui. Donc nous sommes pompiers volontaires pour répondre à des situations d'urgence essentiellement. Porter secours, porter assistance, bien sûr, mais c'est d'abord répondre aux situations d'urgence. C'est pour ça que nous venons. Ensuite, il y a l'esprit de corps, l'esprit d'équipe, la camaraderie. Parce qu'en fait, on va passer beaucoup de temps à attendre en fait l'intervention, pendant lesquelles on va se former, on va travailler, on va faire certains trucs. Mais bon, bref, on passe quand même beaucoup de temps avec ses camarades à parfois à refaire le monde, soir, à la veillée, etc. Bon, et c'est aussi ça qui fait qu'on a plaisir à venir, c'est rencontrer ses collègues. Donc ça, c'est le deuxième axe. Et le troisième, c'est la reconnaissance que j'évoquais tout à l'heure. Une fois que ces trois éléments sont réunis, bien pesés, bien dosés, bien compris aussi, alors le système, il est assez intéressant, il fonctionne bien de manière assez vertueuse. Oui.
Très bien. Merci infiniment, Monsieur le Contrôleur Général Laurent Chavillon. Donc, merci pour cette clarté, puis votre engagement sans faille. On sent que vous-même, vous êtes très investi. Et puis, nous rappeler que chaque minute compte, hein, donc ça résonne bien au-delà des interventions d'urgence. Peut-être que vous pourrez encore intervenir. On va faire une pause, mais une courte pause, parce que l'heure tourne.
Vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM.
IDFM Radio, l'économie en direct, nous enchaînons toujours avec cette spéciale SDIS et puis aussi l'accueil de David Dejanovic, directeur des opérations France TK Home Solutions. Alors Mélanie, vous, expliquez-nous votre mission au sein du SDIS.
Alors comme je le disais tout à l'heure, c'est très 360 degrés, il y a différents volets, donc il y a le volet en interne que nous sommes en train de développer de plus en plus, donc toute l'information en interne, s'assurer qu'elle aille bien à tous les agents, tous les personnels, que ce soit de l'actualité du SDIS en interne ou alors des manifestations sportives. Parce que le sport est très ancré au sein des sapeurs-pompiers. Et il y a tout le volet également externe, donc que j'évoquais un petit peu tout à l'heure, où il y a toute la gestion des réseaux sociaux. Je le disais peut-être à tort tout à l'heure qu'on n'intervient pas dans le processus de recrutement. C'est à moitié vrai, mais
Si vous communiquez sur les réseaux sociaux, exactement. Forcément, ça a un impact.
Il y a quand même des messages à faire passer en externe. Et après les sujets sont très vastes. Ça part du lundi motivation avec la petite phrase un petit peu philosophique à l'intervention, à la valeur du sauvé. On n'en parle pas, on n'en a pas forcément parlé parce que c'est pas le sujet, mais il y a quand même un gros lien. L'idée, c'est de mettre en avant l'action des sapeurs-pompiers pour mettre en avant les coûts et ce qui a été sauvé plutôt que ce qui a été perdu.
Perdu, bien sûr.
Donc on communique sur ça. Ça fait plusieurs années que la valeur du sauvé, qu'on met en avant la valeur du sauvé, mais c'est vraiment depuis ces dernières années qu'on en parle et qu'on communique sur les réseaux sociaux.
Oui.
Voilà. Et peu de SDIS le font en France. Donc
si on veut vous suivre sur les réseaux sociaux, c'est on tape SDIS. Hein.
Pompier 95.
Ah, d'accord.
Voilà. Pompier 95 sur Facebook, sur Instagram, sur X anciennement Twitter. Et on a également un site internet, donc www.pompier95.fr.
LinkedIn aussi.
Également. Oui, je l'ai oublié, mais il est bien présent.
Parce que, en tout cas, cette émission, moi, je la relais aussi sur ces réseaux sociaux, donc ça donnera peut-être un peu plus de flux encore. Comment vous arrivez à lutter contre les idées reçues? On disait les pompiers, c'est que pour les hommes, par exemple.
Justement, en contrant cette image de héros inaccessible, nous on tourne vraiment nos communications vers l'humain et en essayant de passer le message, en tout cas de déconstruire l'image héros inaccessible pour justement donner envie déjà, créer des vocations et essayer de faire passer le message comme quoi être sapeur-pompier c'est accessible à tous. Il suffit de s'y intéresser, de comprendre aussi le métier,
ce qu'il y a derrière, de faire partie de ce corps,
tout à fait. De s'engager, c'est ça aussi.
C'est le premier pas, et après,
une fois qu'on a fait le premier pas, je me tourne vers vous, David, mais la suite est déjà toute tracée.
En off, je posais la question de savoir si votre recrutement était, je m'adresse à vous, Monsieur Chavillon, mais aussi à vous, Mélanie, si votre recrutement était surtout basé sur ces journées portes ouvertes ou si vous preniez votre bâton de pèlerin pour aller trouver les entreprises et les sensibiliser.
En fait, on veut jouer sur tous les tableaux.
Oui.
En fait, on a au sein du SDIS, au sein de l'organigramme du SDIS, il y a une équipe, une petite équipe d'ailleurs, en charge du développement du volontariat, qui doit travailler toutes les pistes en fait. On n'est pas sur un seul axe. On essaie d'aller au plus large.
On a
nos sections de jeunes sapeurs-pompiers qui sont environ 500 jeunes qui sont engagés sur une vingtaine de sections sur le territoire. Et ils viennent, les gamins, c'est sûr, leur idée, à terme, c'est d'être pompier. Certains le seront, d'autres non, parce qu'il y a des conditions d'aptitude physique qui vont évoluer entre-temps, mais beaucoup le deviennent. C'est un vivier. Mais c'est un vivier qui arrive à l'âge de 18 ans. C'est-à-dire qu'en fait, on est encore dans la scolarité pour certains, avec des études qui vont se poursuivre, ou des mobilités. On va commencer à avoir peut-être les premières mobilités professionnelles, etc. Donc, mais c'est pas grave. À la limite, la graine, elle est semée. Elle a grandi. Et peut-être que cet engagement citoyen, ils iront en faire bénéficier une autre caserne.
Bon. Oui, c'est là où le bouche à oreille fonctionne bien.
Mais eux, ils ont été pendant 4 ans. Et puis d'autres, eux viennent effectivement, ils cherchaient un sens à faire quelque chose en plus. On participe parfois à des forums, aux forums des associations.
Ah oui.
On est dans certains forums des associations, les casernes y vont. Et en fait, on est là-dessus. On peut aussi aller sur des forums d'étudiants, de collégiens. On essaie aussi de se rapprocher de l'université de Cergy. Et puis, alors peut-être là où c'est plus compliqué, c'est d'aller chercher des David, en fait. parce qu'en fait... on a besoin de tout le monde, des hommes, des femmes, les jeunes, très bien, ils amènent du dynamisme, etc. Mais ils sont pas encore complètement stabilisés dans tous les aspects de leur vie et ils vont bouger, etc.
Oui.
Et d'ailleurs, et nous avons effectivement, nous devons nous y répondre, c'est ce turnover. On reste peu,
faut arriver.
On repart, mais c'est parce que la vie, en fait, c'est pas le. Pour certains,
c'est
en
pas
fait,
une mauvaise volonté.
Certains souhaitent arrêter parce que c'est trop lourd. Et puis d'autres, non, c'est la vie simplement qui les éloigne, ou pas forcément des sapeurs-pompiers, mais en tout cas de leur engagement dans le Val d'Oise. Et en fait, une de nos cibles privilégiées, c'est les candidats et les candidates qui sont installés dans la vie, qui ont posé la famille, et qui vont venir chez nous avec un engagement qui est bien réfléchi, qui a été discuté au sein de la, etc. Et là, Si les choses se font bien, on est parti pour quelque chose de long.
Pour plusieurs années.
Voilà, avec une maturité aussi d'adulte, etc., etc. Voilà. Donc en fait, on est capable d'aller sur tous les segments.
Très bien.
On essaie de ne.
Oublier.
On essaie de ne rien oublier. On ne rejette aucune candidature a priori. Par contre, on vérifie quand même que la personne qui candidate le fait en connaissance de cause et. Bon, on met quand même en avant quelques, contraintes, spécificités, qu'il faudra qu'elle intègre, que le candidat intègre, parce que sinon,
ça marchera pas.
Il ne va pas se satisfaire chez nous.
C'est sûr.
Voilà. Donc ça, d'expérience, on connaît ça.
Oui.
Donc on vérifie, puis après, si on a un doute, on laisse faire, et puis après la personne
en juge. Très bien, c'est très clair. On vous laisse profiter de quelques instants de musique encore avec Elton John et France Gall, Donner pour Donner, et on se retrouve tout de suite après.
When a hand is silver lining, when a crime to make the headline news, if it's a matter for decision, you and I can be the ones to choose.
Je te donne mes espoirs cachés. Je te donne mes incertitudes. Je te donne mes plus grands secrets.
La vie, c'est déjà si compliqué.
Pour donner, tout donner, c'est la seule façon d'aimer. Donner pour donner, c'est la seule façon de vivre. C'est la seule façon d'aimer.
Pas la peine de vivre enfermé. Pas la peine de rester couché.
Non, c'est pas la peine.
Je te donne sans rien demander.
La vie c'est déjà si compliqué.
Je te donne mes sourires moqueurs. Je te donne ma force, ma douceur. Je te donne secret fragile.
La vie, c'est déjà si difficile.
Donner pour donner, tout donner, c'est la seule façon d'aimer. Donner pour donner, c'est la seule façon de vivre. C'est la seule façon d'aimer.
Oh, donner pour donner, tu donner. C'est la seule façon d'aimer.
Donner pour donner, c'est la seule façon de vivre. C'est la seule façon d'aimer.
IDFM, 98FM.
C'est toujours et encore l'économie en direct sur IDFM Radio. Et ce matin, j'accueille le contrôleur général Laurent Chavillon, directeur départemental du SDIS du Val-d'Oise, chef de corps des sapeurs-pompiers. Mélanie Saint-Martin, chef adjointe du service communication du SDIS du Val-d'Oise. Et David Dejanovic, directeur des opérations France TK Home Solutions. Alors David, comme je l'ai dit en début d'émission, vous souhaitiez venir hein, parce que vous avez des nouveautés à nous présenter pour TK Home Solutions. Et aussi, moi j'étais persuadée que vous étiez pompier volontaire, donc c'était un petit peu, j'ai voulu faire le lien.
Mais il y a du lien.
Que dites-vous de toute cette toutes ces formations qui peuvent s'offrir à vous éventuellement?
Bah à moi ou à des personnes comme moi, effectivement. Oui. Là où on se pose la question, c'est justement cette équipe vie perso, vie professionnelle et vie aussi de volontaire. Oui. Il faut réussir à trouver la bonne balance et effectivement, il faut s'engager aussi en connaissance de cause.
Bien
et
sûr.
Je pense qu'effectivement, les journées portes ouvertes peuvent être quelque chose de très intéressant, justement pour découvrir cette troisième famille, puisqu'on a notre famille personnelle, professionnelle et cette troisième famille-là. Et je pense que c'est super important de pouvoir justement accueillir à nouveau et vraiment plonger dans les bonnes conditions et dès le départ les personnes qui souhaitent y participer, bien évidemment.
Très bien. Merci, David. Alors, vous êtes dans le domaine du monte-escalier, hein, oui. Aux besoins de l'utilisateur. Vous vendez des appareils quand même qui ont une certaine notoriété.
Oui.
Mais aujourd'hui, vous voulez nous parler d'un nouveau service qui vient d'être créé.
Effectivement, comme vous le savez.
Rappelez-nous déjà quel est l'objet de votre activité exactement.
Alors l'objet de l'activité TK Home Solutions, en fait, c'est une branche de TK Ascenseurs, ThyssenKrupp anciennement, donc le leader mondial oui. en fait dans le domaine des ascenseurs, et en fait ils ont une filiale dans chaque pays dans le monde entier qui installe des montes-escaliers pour les personnes à mobilité réduite, âgées, et donc justement pour permettre l'accessibilité et la mobilité des personnes à leur domicile. Mmh. Parce qu'on le sait très bien, il y a des personnes malheureusement qui sont en situation de handicap. Aujourd'hui, c'est à peu près 12 millions de personnes en France. Parmi elles sont aussi des personnes âgées. Donc forcément, avec l'âge, on a du mal à se déplacer. Et le besoin, en fait, qu'on va venir là on va venir créer une solution pour un besoin, c'est vraiment de se dire bah la personne n'est pas obligée de déménager sa chambre du premier étage au rez-de-chaussée comme on en connaît beaucoup et encore la semaine dernière j'ai vu un client dans cette situation-là. En fait, bah on offre la possibilité, enfin on propose une solution oui. qui est justement de continuer à bouger au sein de la maison, d'accéder en fait de la salle de bain à la salle à manger, etc., sans grand effort de la part de l'utilisateur. Et donc ça, c'est vraiment le cœur de métier depuis plus de 70 ans. C'est pour ça que Techcom Solutions est leader aujourd'hui, numéro un mondial. C'est justement parce qu'on est ceux qui ont créé et inventé cette solution-là.
Oui.
De l'autre côté, ce pourquoi je suis à nouveau là aujourd'hui, c'est que bon, dans le passé, j'étais là pour plusieurs autres sujets de ma startup qui était aussi dans le service à la personne. Et le fait d'être revenu dans Techcom Solutions, parce que pour rappel, j'ai travaillé dans cette entreprise vraiment sans dénigrer aucun positionnement, mais vraiment au plus bas de l'échelle, volontairement aussi. Donc aujourd'hui, voilà, en tant que directeur des opérations France, j'ai les possibilités de créer beaucoup de choses, d'avoir de l'impact dans la société. Et c'est vrai que j'ai pas cette casquette forcément commerciale, même si on est dans un voilà domaine business, etc. Le plus important pour moi, c'est de rester dans la même veine, c'est-à-dire que entre ma startup et comme vous le savez très bien, avant de revenir chez Techcom Solutions, j'ai aidé le ministère du numérique, du travail, à créer des applications justement pour aider les personnes qui sont un peu isolées à accéder à des services à domicile, à accéder à pas mal d'informations aussi à domicile dans le domaine du numérique. Et en fait, ce domaine-là d'accessibilité, d'aide à la personne, c'est pour ça que nos sujets ne sont pas forcément si éloignés que ça. Alors vous, côté urgence, il y a les feux, etc. Donc ça, nous, on a le feu opérationnel, on va dire ça comme ça, mais on n'a pas le feu physique. Mais ne sont pas si éloignés que ça parce qu'effectivement, on vient aussi répondre à des besoins. Et le but, c'est de se dire que tout le monde a sa chance, en fait, à domicile, de pouvoir bouger, de pouvoir accéder à tous les services. Et effectivement, c'est pourquoi on se revoit aujourd'hui.
Oui.
C'est justement parce que la semaine dernière, dans le Val d'Oise, j'ai ouvert le premier atelier reconditionné. Donc, c'est vraiment une première en France et à l'échelle européenne aussi, qu'une société de monte-escalier ouvre un pôle de reconditionné. Et pourquoi? Parce que forcément, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, j'ai pas forcément la casquette commerciale, c'est que le commercial va plutôt chercher à vendre des produits neufs, etc. Mm-hmm. Et moi, je me dis juste que une personne à mobilité réduite, qui a pas beaucoup d'argent en fait en compte en banque, ne peut pas se permettre d'acheter un appareil à plus de 10 000 euros ou des choses comme ça. Et donc, du coup, le domaine de reconditionner vient d'une part pallier forcément à l'accessibilité à domicile. Mais deuxièmement aussi à l'accessibilité en fait dire financière. Et donc c'est pour ça que le monte-escalier un reconditionné vaut à peu près 50% moins cher qu'un neuf, qui est utilisable comme un neuf,
qui va être révisé pour être comme un neuf.
Exactement. Et le but c'est vraiment de dire aux personnes en fait l'accessibilité n'a pas de prix. Et dans le bon sens du terme, pas forcément de se dire oui on peut investir des milliers d'euros, mais c'est vraiment de se dire tout le monde peut bouger et peut être logé à la même enseigne. Et bénéficier quasiment des mêmes appareils. Et donc là, le but, c'était de se dire, je vais lancer le reconditionné, je vais le créer de A à Z, ce que j'ai fait, et ma plus grande fierté, c'est que ce premier atelier-là, à l'échelle européenne, soit dans le Val d'Oise, à Herblay. Comme pas mal de personnes le savent, je viens de Montmorency, donc ça me tenait à cœur aussi de faire profiter
le territoire
en fait de ça. Donc là, on commence à quelque chose de plutôt petit. Hein. C'est un atelier de 300 mètres carrés, mais bon, il a ouvert que la semaine dernière. Donc le temps de voir l'impact que ça aura, etc. On sera sûrement amené à grossir,
oui,
à structurer. Donc on est vraiment à la jeunesse de quelque chose, mais qui répond très rapidement parce que dès qu'on l'a annoncé,
vous avez déjà des demandes.
Dès qu'on l'a annoncé à nos clients, au bout de 48 heures, on a eu des dizaines et dizaines de commandes en 48 heures. Et donc du coup, en fait, ça va dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on a des clients qui en ont besoin, donc qui vont acheter chez nous des appareils reconditionnés, mais on a des personnes aussi qui malheureusement, les parents sont décédés ou doivent aller en maison de retraite ou autre, et à ce moment-là, on rachète leur monte-escalier. Donc en fait, c'est vraiment une économie circulaire. On parlait tout à l'heure de RSE, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire on va pas renvoyer nos appareils à la déchetterie ou en Allemagne ou peu importe où. Parce que nos produits sont allemands, mais c'est vraiment de faire circuit court, de reconditionner et de remettre directement sur le marché.
Très bien. Et alors donc, si des auditrices et auditeurs nous écoutent et veulent bénéficier de cet avantage, que faut-il faire pour
Il suffit contacter. Juste d'aller sur le site internet techhomesolutions.fr. Je précise .fr parce que comme on est partout dans le monde, il y en a, ils tombent sur le site belge, etc. Donc c'est vraiment .fr en France.
Et il y a un onglet.
Il y a un onglet spécifique pour ça.
Circulaire.
Exactement. Et s'il y a besoin vraiment, voilà, les personnes peuvent contacter le numéro Cristal qui est présent sur le site et les personnes sont complètement formées pour expliquer le pourquoi du comment, comment en bénéficier, etc.
Et est-ce que vous pouvez juste nous donner une idée de du coût de entre un neuf et un reconditionné?
On va prendre quelque chose de plutôt standard sur une configuration. En fait, on a deux catégories d'appareils, ce qu'on appelle les tournants, donc forcément c'est dans les escaliers intérieurs, et ce qu'on appelle les droits, ça peut être dans les escaliers intérieurs comme à l'extérieur des maisons.
D'accord.
Sur les escaliers tournants, si on prend une configuration simple, un escalier en L, un neuf peut aller entre 9 500 et 10 000 €. Et ça, c'est valable pour tout le marché, c'est-à-dire pas que chez nous, mais vraiment par rapport à la concurrence aussi, c'est un prix moyen. Et un droit peut aller chercher jusqu'à 7 000 €. Mm-hmm. En l'occurrence, avec le reconditionné, on peut avoir un tournant à 7 000 € et on peut avoir un droit à 4 000 €.
Ah oui.
Donc on divise vraiment les prix quasiment entre 45 et 50%. Mm-hmm. On les réduit énormément justement pour offrir cette accessibilité-là parce que moi, je trouve que c'est pas juste vis-à-vis des personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens de ne pas pouvoir accéder à leur domicile.
Bien sûr, bien sûr. David, merci infiniment de cette précision. On va vous suivre toujours pour voir comment va évoluer cet atelier de reconditionnement. Vous nous tiendrez informés dans les semaines à venir. Merci infiniment. Alors, je m'adresse à nouveau à vous, Laurent Chavillon et puis Mélanie, parce que vous avez un moment fort qui a eu lieu la semaine dernière. C'est votre sainte patronne, c'est Sainte Barbe, c'est ça?
Oui.
Donc, vous avez un événement particulier à cette occasion?
Oui, le 4 décembre, donc la Sainte Barbara, Sainte Barbe, donc la patronne des sapeurs-pompiers, des artificiers.
C'est plus joli Barbara que Barbe.
Voilà, donc en fait, donc Sainte Barbe, donc est notre sainte patronne et qui est un jour qui est célébré, je veux dire, pas que chez les sapeurs-pompiers, mais c'est quand même essentiellement chez les sapeurs-pompiers, que dans ce département, donc avec le président. Luc Estreno, nous avons souhaité fêter de manière très très solennelle.
Oui.
Donc ce qui a donné lieu donc à une prise d'armes. À l'école départementale des sapeurs-pompiers du Val-d'Oise pour profiter d'un lieu qui permet de nous rassembler et puis d'être protégé des frimas, mais on pourrait l'imaginer tout à fait aussi à l'extérieur. En fait, c'est une cérémonie qui va être à la fois un temps d'hommage. Un moment, un temps d'hommage, la Sainte Barbe, c'est ça aussi, au personnel décédé ou blessé dans l'exercice des missions. Et de ce point de vue-là, donc en 2025, le SDI du Val-d'Oise a payé un lourd tribut avec le décès de l'adjudant Clément Bailly, qui, lors d'un trajet pour aller prendre une garde de sapeurs-pompiers volontaires, a été mortellement touché. Donc, il a derrière lui une jeune Louison, une pupille, une pupille avec sa compagne. Donc, il y en a eu d'autres.
C'est un moment
Il y en a eu d'autres. Il y a 8 noms qui seront égrenés. Plus les. Nous rendons aussi hommage à nos pompiers disparus depuis la création du corps départemental, donc au sein de ce SDIS. Donc c'est ce temps d'hommage, c'est un temps de recueillement, c'est un temps de pensée,
un moment d'émotion,
leur égard, un moment aussi de reconnaissance, toujours ce fil rouge là qui revient régulièrement, puisque nous mettons à l'honneur les personnels, pour une partie d'entre eux du moins, qui ont réalisé des actes de bravoure, donc avec l'attribution des médailles pour actes de courage et dévouement par monsieur le préfet. Un certain nombre d'ailleurs de personnels ont pris part à l'intervention, enfin les primo-intervenants sur le site d'Hermont,
Donc
on fait les premiers sauvetages dans des conditions un peu dantesque. Donc on se rompt, mais pas que. Il y a aussi des personnes qui ont fait des actes méritoires sur des sauvetages, sur des incendies. Donc il y aura une trentaine d'agents qui vont être ainsi reconnus par la médaille, qui ont été reconnus par la médaille pour acte de courage et dévouement, des médailles de la sécurité intérieure, des insignes de chef de centre. Voilà, en tout cas un temps aussi qui est orienté vers la reconnaissance. Et puis un temps, cette reconnaissance, elle passe aussi par la présence de nos autorités, un certain nombre de discours, de prises de parole. Alors on appelle ça les discours de Sainte-Barbe. Donc il y a toujours avec l'idée de dire il y a les discours de Sainte-Barbe avec des promesses et puis après la vie. Bon, ma foi, après chacun est, voilà. En tout cas, on essaie de faire en sorte quand même de tenir des propos justes à l'égard des personnels, à l'égard des autorités. C'est ce qu'on attend aussi d'elles. Et puis un moment de convivialité au final.
Bien sûr. C'est important.
Voilà, toujours ce même esprit, le sens de l'engagement, le sens de la reconnaissance, le sens de la solidarité, de la convivialité. C'est comme ça que ça fonctionne et c'est tout ça la Sainte-Barbe. Et ça fait des années, voire des siècles que ça perdure.
Et
on fonde d'espoir que ça continue, ainsi très longtemps.
On vous le souhaite. Mélanie, cette fête de la Sainte-Barbe, c'est important?
C'est important et si je peux me permettre de rajouter quelque chose, c'est que à la Sainte-Barbe, on a l'habitude de faire découvrir le film de la rétrospective de l'année.
Absolument.
Voilà, c'est ce qui s'est passé le 4 décembre dernier et on a visionné pour la première fois le film de la rétro.
Très bien. Bah, écoutez, merci infiniment. Et puis, comme je le dis très souvent à mes invités, je pense qu'il faudra que vous reveniez parce que je pense qu'on n'a pas tout dit ce soir, ce matin, malgré les 90 minutes. Et en tout cas, merci infiniment de votre présence et puis de nous avoir sensibilisés sur ce problème du volontariat. Alors, l'émission est pratiquement terminée. J'ai l'habitude, on refait un petit tour de pour un petit mot de conclusion. Donc, David, je vous ai pas beaucoup interviewé, mais vous reviendrez, David,
mais
aussi.
Comme d'habitude.
Parce que, voilà, c'était très riche au niveau 10-10.
Ah oui, très, très riche. Et effectivement, c'est quelque chose de très important aussi de partager parce que, aujourd'hui, je pense qu'il y a quelque chose à faire avec, le gouvernement, dans le sens où pourquoi pas avoir cette entente-là avec les entreprises. Je dis n'importe quoi, peut-être une idée comme ça, mais proposer justement des congés de solidarité où les entreprises peuvent participer, l'État aussi, pour justement pouvoir faire bénéficier typiquement ce genre de situation-là, pourquoi pas. Mais c'est quelque chose de très très important. Donc effectivement, c'est normal que ce soit un sujet prioritaire aujourd'hui parce qu'on en a besoin. Et on est bien content de les trouver quand nous, on est dans des situations un peu soit un accident, soit voilà ce genre de problématique-là.
Bien sûr.
Donc, effectivement, il faut y aller.
Et donc, vous transmettrez à votre entreprise
Dans deux semaines, j'ai ma formation de renouvellement, justement, premier secours et autres éléments. Donc, ce sera un sujet.
Vous allez pouvoir en parler. Ouais. Très bien. Merci infiniment, David. Mélanie, un petit mot de conclusion avant de nous quitter.
Déjà, tout d'abord, merci beaucoup pour votre accueil. Et puis... l'information ou la communication qu'on peut porter, engagez-vous, n'hésitez pas et suivez votre cœur finalement.
Oui, c'est ça. En fait, je crois que c'est le mot juste, suivre son cœur. Merci beaucoup, Mélanie.
Merci à vous.
Monsieur le contrôleur général Laurent Chavillon, je vous laisse le mot de la fin.
Je vais aussi vous remercier. Je remercie chaleureusement Jacqueline de nous avoir ouvert les portes de votre émission et de toucher ainsi une population, de faire passer des messages, peut-être faire susciter quelques vocations, quelques intérêts, ou tout simplement prendre conscience que en fait de quelques aspects de la façon dont fonctionne ce service. On a l'habitude de dire, on en voit souvent la vitrine. C'est les secours qui interviennent. En fait, il y en a très peu qui rentrent dans le magasin pour voir comment c'est organisé. Il y en a encore beaucoup moins qui vont dans les réserves voir comment les choses sont structurées. Donc là, voilà, un peu faire, ça m'a permis de rentrer un peu dans le magasin, de faire connaissance et puis d'expliquer un certain nombre de choses. C'est important et j'ai beaucoup parlé de la reconnaissance et moi je le prends aussi comme étant un signe de reconnaissance que vous nous exprimez par ce biais. Et franchement, j'en suis vraiment chaleureusement sensible et j'y joins toute mon équipe et tout le corps départemental des sapeurs-pompiers du Val-d'Oise. Le dernier mot, je le reprends, je l'ai sous les yeux, c'est sur nos plaquettes. En fait, le dit du Val-d'Oise est le département du Val-d'Oise aujourd'hui est un département qui grandit. Qui retrouve peut-être une dynamique sociale, économique, un territoire. Le SDIS est tout simplement là pour le protéger. Voilà.
Ah oui, donc, le SDIS,
le Val-d'Oise, un département qui grandit, un SDIS qui protège. Voilà, en tout cas, c'est notre mission et on s'y engage chaque jour avec volonté.
C'est une belle conclusion, mais moi, je peux vous dire que nous sommes. Moi, je suis ravie d'avoir pu vous donner la parole et si IDFM peut continuer, IDFM Radio peut continuer à transmettre vos messages, nous le ferons très volontiers. N'hésitez pas. Et pour conclure, moi, je voudrais citer une phrase. J'ai reçu il n'y a pas très longtemps. Bah, c'était pour le 11 novembre. J'ai pu interviewer Jean-Michel Fauvergue, qui était l'ancien patron du RAID. Et il a écrit un livre, Ni capitulation ni résignation, et il écrit l'engagement et le ciment des sociétés qui résistent. Aujourd'hui, vous nous avez montré que ce ciment se décline en actions concrètes avec des volontaires qui quittent leur travail pour sauver des vies, des entreprises qui transforment des contraintes en opportunités. Et des innovateurs qui redonnent de l'autonomie. Donc, merci à tous les trois.
Merci
beaucoup.
Merci.
Merci. L'économie en direct est terminée. Merci Francky pour la technique. Merci à nos auditrices et auditeurs d'être fidèles, comme toujours. Cette émission vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. À vendredi prochain sur IDFM Radio, la radio qui vous rapproche de votre territoire. Belle journée, bonne semaine et puis restez avec nous surtout pour la suite des émissions.
IDFM Radio, bien plus qu'une radio.
Bonjour à tous, c'est Laetitia et Myriam sur IDFM Radio. On vous donne rendez-vous pour l'émission Femmes en Lumière, tous les mardis à 18h.
Une émission dédiée aux femmes inspirantes et à leur parcours, l'occasion de mettre sous les projecteurs les femmes de notre région et d'ailleurs.
À très vite sur IDFM Radio. Dans les moments importants de votre vie, vous avez besoin d'un repère solide. Que ce soit pour défendre vos droits, protéger votre famille ou accompagner votre entreprise, un avocat du barreau du Val-d'Oise est à vos côtés. Les avocats du Val-d'Oise, ce sont des professionnels formés, indépendants et à l'écoute. Que vous soyez Argenteuil, Cergy, Sarcelles ou Pontoise, il y a toujours un avocat près de vous. Retrouvez les dates et les lieux de consultation gratuites destinés aux particuliers et aux entreprises sur le site du barreau du Val-d'Oise. Barreau du Val-d'Oise, l'expertise juridique à votre service.
Bonjour, c'est Christelle. Je vous invite à découvrir Les Secrets de la Servante, votre nouvelle émission culture sur IDFM Radio. Quand la salle de spectacle se vide et que le théâtre s'endort, saviez-vous qu'il reste une petite lumière qui brille ? C'est celle de la servante. Elle veille, surveille, jusqu'au prochain réveil. Dans cette émission, nous donnons la parole à celles et ceux qui, dans l'ombre comme dans la lumière, font vivre la culture. Artistes, auteurs, techniciens, experts ou acteurs du secteur. Chaque semaine, la servante nous livre ses secrets, éclaire l'actualité et anime les coulisses du spectacle vivant. Alors rendez-vous tous les samedis à 16h sur IDFM Radio.
Bonjour, c'est Didier Delattre. Chaque semaine, je vous donne rendez-vous à la découverte de personnalités du Val d'Oise, car j'aime leur richesse, leurs projets, leur engagement. Rendez-vous le jeudi à 18h, rediffusion le dimanche à 10h30 sur IDFM Radio et dans notre rendez-vous compte, évidemment.
Bonjour, retrouvez-nous sur IDFM Radio tous les vendredis de 18h à 19h avec toute la culture que j'aime.
Toute la culture que j'aime, c'est votre rendez-vous avec Marie-Laure
et Agnès
en alternance le vendredi de 18h à 19h. Nous partagerons nos coups de cœur,
théâtre, littérature, musique, sorties.
Toute la culture que j'aime, c'est le vendredi de 18h à 19h sur IDFM Radio.
Bonjour à toutes et à tous. Je vous retrouve tous les samedis et les dimanches entre 11h et midi sur les ondes de IDFM Radio.
Balade musicale avec Christophe Gravero sur IDFM Radio.
Retrouvez-moi, Virginie Voraz, du lundi au vendredi à 6h45 dans l'instant bien-être. Je vous donnerai des astuces et conseils au naturel pour votre santé et pour booster votre morale. Du lundi au vendredi, l'instant bien-être sur IDFM.